Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez France Culture et vous l'avez entendu tout de suite. Donc c'est la suite du festival Estival, la première édition de ce festival dédié à Albert Camus. Donc nous sommes en direct sur l'antenne de France Culture et en public ici au Théâtre de la Ville. Et je remercie, j'accueille le public qui était avec nous déjà nombreux cet après-midi au théâtre. Alors nous n'avons pas résisté à l'idée de vous faire entendre aujourd'hui des extraits de La Peste, un roman d'Albert Camus publié en 1947 et qui a été beaucoup lu et relu ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'il est le roman d'une épidémie, un roman métaphorique et en même temps le miroir de ces choses de la vie que nous avons vécues les uns et les autres. Les premiers cas suspects, les premiers morts, la ville qui s'arrête, les transports coupés, la ville qui devient une prison, les séparations, les absences, le temps suspendu, la peur et la perte. Et puis aussi l'ivresse de la libération. L'imprudence peut-être, et l'écrivain, lanceur d'alerte, qui nous rappelle dans les dernières pages à la vigilance. Que ce soit contre la maladie ou contre la menace du fascisme, Camus nous alerte sur tout ce qui réduit la vie et la communauté. Alors ce livre, je vous propose de l'entendre aujourd'hui comme une occasion de s'arrêter un moment ensemble, de nous ralentir et de partager collectivement la mémoire et la fiction. Nous sommes vivants, nous sommes heureux de marcher de nouveau dans les rues, et de retourner dans les théâtres, comme aujourd'hui. Et nous sentons que l'art et la littérature nous sont nécessaires, non seulement pour vivre, mais pour ne pas oublier. Sharif Andoura lit, en ce début d'après-midi, dans quelques instants, des extraits de La Peste de Albert Camus. La lecture est réalisée en public au Théâtre de la Ville et en direct sur France Culture par Christophe Hocquet.
Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était catégorique. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort, la conviction de M. Michel restait entière. Il n'y avait pas de rat dans la maison, il fallait donc qu'on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l'immeuble, cherchait ses clés avant de monter chez lui, lorsqu'il vit surgir, du fond obscur du corridor, un gros rat, à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entrouvertes. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui. Ce n'était pas au rat qu'il pensait. Ce sang rejeté le ramenait à sa préoccupation. Sa femme, malade depuis un an, devait partir le lendemain pour une station de montagne. Il la trouva couchée dans leur chambre, comme il lui avait demandé de le faire. Ainsi se préparait-elle à la fatigue du déplacement. Elle souriait. « Je me sens très bien, » disait-elle. Le docteur regardait le visage tourné vers lui dans la lumière de la lampe de chevet. Pour Rieux, à 30 ans, et malgré les marques de la maladie, ce visage était toujours celui de la jeunesse. À cause peut-être de ce sourire qui emportait tout le reste. « Dors si tu peux, » dit-il. « La garde viendra à 11h et je vous mènerai au train de midi. » Il embrassa un front légèrement moite. Le sourire l'accompagna jusqu'à la porte. Le lendemain, 17 avril, à 8h, le concierge arrêta le docteur au passage et accusa des mauvais plaisants d'avoir déposé 3 rats morts au milieu du couloir. On avait dû les prendre avec de gros pièges, car ils étaient pleins de sang.
Le concierge était resté quelque temps sur le pas de la porte, tenant les rats par les pattes, et attendant que les coupables voulussent bien se trahir par quelques sarcasmes. Mais rien n'était venu. « À ceux-là, disait M. Michel, je finirai par les avoir. » Intrigué, Rieu décida de commencer sa tournée par les quartiers extérieurs, où habitaient les plus pauvres de ses clients. La collecte des ordures s'y faisait beaucoup plus tard, et l'auto, qui roulait le long des voies droites et poussiéreuses de ce quartier, frôlait les boîtes de détritus, laissées au bord du trottoir. Dans une rue qui longeait ainsi, le docteur compta une douzaine de rats jetés sur les débris de légumes et les chiffons sales. Il trouva son premier malade au lit, dans une pièce donnant sur la rue et qui servait à la fois de chambre à coucher et de salle à manger. C'était un vieil Espagnol, au visage dur et raviné. Il avait devant lui, sur la couverture, deux marmites remplies de pois. Au moment où le docteur entrait, le malade, à demi dressé dans son lit, se renversait en arrière pour tenter de retrouver son souffle caillouteux de vieil asthmatique. Sa femme apporta une cuvette. « Hein, docteur ? » dit-il pendant la piqûre. « Ils sortent. Vous avez vu ?»« Oui, » dit la femme. « Le voisin en a ramassé trois. » Le vieux se frottait les mains. « Ils en sortent. On en voit dans toutes les poubelles. C'est la faim. Ils ont faim. » Rieu n'eut pas de peine à constater ensuite que tout le quartier parlait des rats. Ses visites terminées, il revint chez lui. « Il y a un télégramme pour vous, là-haut, » dit M. Michel. Le docteur lui demanda s'il avait vu de nouveaux rats. « Ah non, » dit le concierge, « je fais le guet, vous comprenez, et ces cochons-là n'osent pas. » Le télégramme avertissait Rieu de l'arrivée de sa mère pour le lendemain. Elle venait s'occuper de la maison de son fils en l'absence de la malade. Quand le docteur entra chez lui, la garde était déjà là. Rieu vit sa femme debout, en tailleur, avec les couleurs du phare. Il lui sourit. « C'est bien, hein ?» dit-il. « Très bien. » Un moment après, à la gare, il l'installait dans le wagon-lit. Elle regardait le compartiment. « C'est trop cher pour nous, n'est-ce pas ?»« Il le faut, » dit Rieu. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat ?»« Je ne sais pas. C'est bizarre, mais cela passera. » Puis il lui dit très vite qu'il lui demandait pardon, il aurait dû veiller sur elle et il l'avait beaucoup négligée. Elle secouait la tête comme pour lui signifier de se taire. Mais il ajouta « Tout ira mieux quand tu reviendras. Nous recommencerons. » « Oui, » dit-elle, les yeux brillants, « nous recommencerons. » Un moment après, elle lui tournait le dos et regardait à travers la vitre sur lequel les gens se pressaient, se heurtaient. Le chuintement de la locomotive arrivait jusqu'à eux. Il appela sa femme par son prénom, et quand elle se retourna, il vit que son visage était couvert de larmes. « Non, » dit-il doucement. Sous les larmes, le sourire revint, un peu crispé. Elle respira profondément. « Va-t'en, tout ira bien. » Il la serra contre lui, et sur le quai maintenant, de l'autre côté de la vitre, il ne voyait plus que son sourire. « Je t'en prie, » dit-il, « veille sur toi. » Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Près de la sortie, sur le quai de la gare, Rieu heurta M. Othon, le juge d'instruction, qui tenait son petit garçon par la main. Le docteur lui demanda s'il partait en voyage. M. Othon, long et noir, et qui ressemblait moitié à ce qu'on appelait autrefois un homme du monde, moitié à un croque-mort, répondit d'une voix aimable mais brève « J'attends Madame Othon qui est allée présenter ses respects à ma famille. » La locomotive siffla. « Les rats !» dit le juge. Rieu eut un mouvement dans la direction du train, mais se retourna vers la sortie. « Oui, » dit-il, « ce n'est rien. » Tout ce qu'il retint de ce moment fut le passage d'un homme d'équipe qui portait sous le bras une caisse pleine de rats morts. L'après-midi du même jour, au début de sa consultation, Rieu reçut un jeune homme dont on lui dit qu'il était journaliste et qu'il était déjà venu le matin. Il s'appelait Raymond Rambert, court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents. Rambert portait des habits de coupe sportive et semblait à l'aise dans la vie. Il alla droit au but. Il enquêtait pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Rieu lui dit que cet état n'était pas bon. Mais il voulait savoir, avant d'aller plus loin, si le journaliste pouvait dire la vérité. « Certes, dit l'autre. Je veux dire, pouvez-vous porter condamnation totale ?»« Totale, non, il faut bien le dire. Mais je suppose que cette condamnation serait sans fondement. » Doucement, Rieu dit qu'en effet, une pareille condamnation serait sans fondement, mais qu'en posant cette question, il cherchait seulement à savoir si le témoignage de Rambert pouvait ou non être sans réserve. Je n'admets que les témoignages sans réserve. Je ne soutiendrai donc pas le vôtre de mes renseignements. C'est le langage de Saint-Just, dit le journaliste en souriant. Rieu dit, sans élever le ton, qu'il n'en savait rien, mais que c'était le langage d'un homme lassé du monde où il vivait, ayant pourtant le goût de ses semblables, et décidé à refuser, pour sa part, la justice et les concessions. Rambert, le cou dans les épaules, regardait le docteur. « Je crois que je vous comprends, » dit-il, enfin en se levant. Le docteur l'accompagnait vers la porte. « Je vous remercie de prendre les choses ainsi. » Rambert parut impatienté. « Oui, dit-il, je comprends. Pardonnez-moi ce dérangement. » Le docteur lui serra la main et lui dit qu'il y aurait un curieux reportage à faire sur la quantité de rats morts qu'on trouvait dans la ville en ce moment. « Ah !» s'exclama Rambert, « cela m'intéresse. » À 17h, comme il sortait pour de nouvelles visites, le docteur croisa dans l'escalier un homme, encore jeune, à la silhouette lourde, au visage massif et creusé, barré d'épais sourcils. Il l'avait rencontré quelquefois chez les danseurs espagnols qui habitaient le dernier étage de son immeuble. Jean Tarrou fumait une cigarette avec application en contemplant les dernières convulsions d'un rat qui crevait sur une marche à ses pieds. Il leva sur le docteur le regard calme et un peu appuyé de ses yeux gris, lui dit bonjour et ajouta que cette apparition des rats était une curieuse chose. « Oui, dit Rieu, mais qui finit par être agaçante. Dans un sens, docteur, dans un sens seulement. Nous n'avons jamais rien vu de semblable, voilà tout. Mais je trouve ça intéressant, oui, positivement intéressant. » Tarrou passa la main sur ses cheveux pour les rejeter en arrière, regarda de nouveau le rat, maintenant immobile, puis sourit à Rieu. « Mais en somme, docteur, c'est surtout l'affaire du concierge. » Justement, le docteur trouva le concierge devant la maison, adossé au mur près de l'entrée, une expression de lassitude sur son visage d'ordinaire congestionné. « Oui, je sais, » dit le vieux Michel à Rieu, qui lui signalait la nouvelle découverte. « C'est par deux ou trois qu'on les trouve maintenant. Mais c'est la même chose dans les autres maisons. » Il paraissait abattu et soucieux. Il se frottait le cou d'un geste machinal. Rieu lui demanda comment il se portait. Le concierge ne pouvait pas dire, bien entendu, que ça n'allait pas. Seulement, il ne se sentait pas dans son assiette. À son avis, c'était le moral qui travaillait. Ses rats lui avaient donné un coup et tout irait beaucoup mieux quand ils auraient disparu. Mais le lendemain matin, 18 avril, le docteur qui ramenait sa mère de la gare trouva Monsieur Michel avec une mine encore plus creusée. De la cave au grenier, une dizaine de rats jonchaient les escaliers. Les poubelles des maisons voisines en étaient pleines. La mère du docteur apprit la nouvelle sans s'étonner. « Ce sont des choses qui arrivent. » C'était une petite femme, aux cheveux argentés, aux yeux noirs et doux. « Je suis heureuse de te revoir, Bernard, » disait-elle. « Les rats ne peuvent rien contre ça. » Lui approuvait. C'était vrai qu'avec elle, tout paraissait toujours facile. Rieu téléphona cependant au service communal de dératisation, dont il connaissait le directeur. Celui-ci avait-il entendu parler de ces rats qui venaient en grand nombre mourir à l'air libre ? Mercier, le directeur, en avait entendu parler. Et dans son service même, installé non loin des quais, on en avait découvert une cinquantaine. Il se demandait cependant si c'était sérieux. Rieu ne pouvait pas en décider, mais il pensait que le service de dératisation devait intervenir. « Oui, dit Mercier, avec un ordre. Si tu crois que ça vaut vraiment la peine, je peux essayer d'obtenir un ordre. »
Ça en vaut toujours la peine, dit Rieux. Sa femme de ménage venait de lui apprendre qu'on avait collecté plusieurs centaines de rats morts dans la grande usine où travaillait son mari. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent, en effet, des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue. Mais depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas, dans les poubelles ou en longues files dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire dès ce jour-là et se demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé et n'avait rien envisagé du tout, mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts tous les matins à l'aube. La collecte finie, deux voitures du service devaient porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures afin de les brûler. Mais dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre des rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le quatrième jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe, des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts. Ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie. Le matin, dans les faubourgs, on les trouvait étalés, à même le ruisseau, une petite fleur de sang sur le museau pointu, les uns gonflés et putrides, les autres raidis et les moustaches encore dressées. Dans la ville même, on les rencontrait par petits tas, sur les paliers ou dans les cours. Ils venaient aussi mourir isolément, dans les halls administratifs, dans les préaux d'école, à la terrasse des cafés, quelquefois. Nos concitoyens stupéfaits les découvraient aux endroits les plus fréquentés de la ville. La place d'armes, les boulevards, la promenade du front de mer, de loin en loin, étaient souillés. Nettoyés à l'aube de ces bêtes mortes, la ville les retrouvait, peu à peu, de plus en plus nombreuses pendant la journée. Sur les trottoirs, il arrivait aussi à plus d'un promeneur nocturne de sentir sous son pied la masse élastique d'un cadavre encore frais. On eût dit que la terre même, où étaient plantées nos maisons, se purgeait de son chargement d'humeur, qu'elle laissait monter à la surface des furoncles et des saillies qui, jusqu'ici, la travaillaient intérieurement. Qu'on envisage seulement la stupéfaction de notre petite ville, si tranquille jusque-là, et bouleversée en quelques jours, comme un homme bien portant dont le sang épais se mettrait tout d'un coup en révolution. Les choses allèrent si loin que l'agence RANSDOC, renseignement, documentation, tous les renseignements sur n'importe quel sujet, annonça dans son émission radiophonique d'information gratuite 6231 rats collectés et brûlés dans la seule journée du 25. Ce chiffre, qui donnait un sens clair au spectacle quotidien que la ville avait sous les yeux, accrut le désarroi. Jusqu'alors, on s'était seulement plaint d'un accident un peu répugnant. On s'apercevait maintenant que ce phénomène, dont on ne pouvait encore ni préciser l'ampleur, ni déceler l'origine, avait quelque chose de menaçant. Seul le vieil espagnol asthmatique continuait de se frotter les mains et répétait « ils sortent » avec une joie sénile. Le 28 avril, cependant, RANSDOC annonçait une collecte de 8000 rats environ et l'anxiété était à son comble dans la ville. On demandait des mesures radicales, on accusait les autorités et certains, qui avaient des maisons au bord de la mer, parlaient déjà de s'y retirer. Mais le lendemain, l'agence annonça que le phénomène avait cessé brutalement et que le service de dératisation n'avait collecté qu'une quantité négligeable de rats morts. La ville respira.
C'est pourtant le même jour, à midi, que le docteur Rieux, arrêtant sa voiture devant son immeuble, aperçut au bout de la rue le concierge qui avançait péniblement, la tête penchée, bras et jambes écartés, dans une attitude de pantin. Le vieil homme tenait le bras d'un prêtre que le docteur reconnut. C'était le père Panelou, un jésuite érudit et militant qu'il avait rencontré quelquefois et qui était très estimé dans notre ville, même parmi ceux qui sont indifférents en matière de religion. Il les attendit. Le vieux Michel avait les yeux brillants et la respiration sifflante. Il ne s'était pas senti bien et avait voulu prendre l'air. Mais des douleurs vives au cou, aux aisselles et aux aines l'avaient forcé à revenir et à demander l'aide du père Panelou. « Ce sont des grosseurs, dit-il, j'ai dû faire un effort. » Le bras hors de la portière, le docteur promena son doigt à la base du cou que Michel lui tendait. Une sorte de nœud de bois s'y était formé. « Couchez-vous, prenez votre température, je viendrai vous voir cet après-midi. » Le concierge parti, Rieux demanda au père Panelou ce qu'il pensait de cette histoire de rat. « Oh, dit le père, ce doit être une épidémie. » Et ses yeux sourirent derrière les lunettes rondes. Les crieurs des journaux du soir annonçaient que l'invasion des rats était stoppée. Mais Rieux trouva son malade à demi versé hors du lit, une main sur le ventre et l'autre autour du cou, vomissant avec de grands arrachements une bile rosâtre dans un bidon d'ordures. Après de longs efforts, hors d'haleine, le concierge se recoucha. La température était à 39,5. Les ganglions du cou et les membres avaient gonflé. Deux taches noirâtres s'élargissaient à son flanc. Il se plaignait maintenant d'une douleur intérieure. « Ça brûle, disait-il. Ce cochon-là me brûle. » Sa bouche, fuligineuse, lui faisait mâcher les mots et il tournait vers le docteur des yeux globuleux où le mal de tête mettait des larmes. Sa femme regardait avec anxiété Rieux, qui demeurait muet. « Docteur, disait-elle, qu'est-ce que c'est ?» Ça peut être n'importe quoi, mais il n'y a encore rien de sûr. Jusqu'à ce soir, diète et dépuratif, qu'ils boivent beaucoup. Justement, le concierge était dévoré par la soif. Rentré chez lui, Rieux téléphonait à son confrère Richard, un des médecins les plus importants de la ville. « Non, disait Richard, je n'ai rien vu d'extraordinaire. »« Pas de fièvre avec inflammation locale ?»« Ah si, pourtant, deux cas avec des ganglions très enflammés. » « Anormalement ?»« Dit Richard, le normal, vous savez. » Le soir, dans tous les cas, le concierge délirait et à 40 degrés se plaignait des rats. Rieux tenta un abcès de fixation. Sous la brûlure de la térébenthine, le concierge hurla. « Ah, les cochons !» Les ganglions avaient encore grossi, durs et ligneux au toucher. La femme du concierge s'affolait. « Veillez, lui dit le docteur, et appelez-moi s'il y a lieu. » Le lendemain, 30 avril, une brise déjà tiède soufflait dans un ciel bleu et humide. Elle apportait une odeur de fleurs qui venait des banlieues les plus lointaines. Les bruits du matin dans les rues semblaient plus vifs, plus joyeux qu'à l'ordinaire. Dans toute notre petite ville, débarrassée de la sourde appréhension où elle avait vécu pendant la semaine, ce jour-là était celui du renouveau. Rieux lui-même, rassuré par une lettre de sa femme, descendit chez le concierge avec légèreté. Et en effet, au matin, la fièvre était tombée à 38 degrés. Affaibli, le malade souriait dans son lit. « Cela va mieux, n'est-ce pas, docteur ?» disait sa femme. « Attendons encore. » Mais à midi, la fièvre était montée d'un seul coup à 40 degrés. Le malade délirait sans arrêt et les vomissements avaient repris. Les ganglions du cou étaient douloureux au toucher. Et le concierge semblait vouloir tenir sa tête le plus possible éloignée du corps. Sa femme était assise au pied du lit, les mains sur la couverture, tenant doucement les pieds du malade. Elle regardait Rieux. « Écoutez, dit celui-ci, il faut l'isoler et tenter un traitement d'exception. Je téléphone à l'hôpital et nous le transporterons en ambulance. » 2 heures après, dans l'ambulance, le docteur et la femme se penchaient sur le malade.
De sa bouche, tapissée de fongosité, des bribes de mots sortaient. « Les rats !» disait-il. Verdâtre, les lèvres cireuses, les paupières plombées, le souffle saccadé et court, écartelé par les ganglions, tassé au fond de sa couchette comme s'il eût voulu la refermer sur lui, ou comme si quelque chose venu du fond de la terre l'appelait sans répit, le concierge étouffait sous une pesée invisible. La femme pleurait. « N'y a-t-il donc plus d'espoir, docteur ?»« Il est mort, » dit Rieu. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit qui laisse Bernard Rieu derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur, puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieu était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens, à cet égard, étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout. Et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages, et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Ils se croyaient libres, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Même le docteur Rieu eut reconnu devant son ami qu'une poignée de malades dispersés venait sans avertissement de mourir de la peste. Le danger demeurait irréel pour lui. Simplement, quand on est médecin, on s'est fait une idée de la douleur et on a un peu plus d'imagination. En regardant par la fenêtre sa ville qui n'avait pas changé, c'est à peine si le docteur sentait naître en lui ce léger écœurement devant l'avenir qu'on appelle inquiétude. Il essayait de rassembler dans son esprit ce qu'il savait de cette maladie. Des chiffres flottaient dans sa mémoire et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de 100 millions de morts. Mais qu'est-ce que 100 millions de morts? Quand on a fait la guerre, c'est à peine si on sait déjà ce qu'est un mort. Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a vu mort, 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople, qui, selon Procope, avait fait 10 000 victimes en un jour. 10 000 morts font 5 fois le public d'un grand cinéma. Voilà ce qu'il faudrait faire. On rassemble les gens à la sortie de 5 cinémas, on les conduit sur une place de la ville et on les fait mourir en tas pour y voir un peu plus clair. Au moins, on pourrait mettre alors des visages connus sur cet entassement anonyme. Mais naturellement, c'est impossible à réaliser. Et puis, qui connaît 10 000 visages ? D'ailleurs, des gens comme Procope ne savaient pas compter, la chose est connue. À Canton, il y avait 70 ans, 40 000 rats étaient morts de la peste avant que le fléau s'intéressât aux habitants.
Mais en 1871, on n'avait pas le moyen de compter les rats. On faisait son calcul approximativement, en gros, avec des chances évidentes d'erreur. Pourtant, si un rat a 30 cm de long, 40 000 rats mis bout à bout feraient... Mais le docteur s'impatientait. Il se laissait aller et il ne fallait pas. Quelques cas ne font pas une épidémie et il suffit de prendre des précautions. Il fallait s'en tenir à ce qu'on savait, la stupeur et la prostration, les yeux rouges, la bouche sale, les maux de tête, les bubons, la soif terrible, le délire, les taches sur le corps, l'écartèlement intérieur et, au bout de tout cela, une phrase revenait au docteur Rieux. Une phrase qui terminait justement dans son manuel l'énumération des symptômes. Le pouls devient filiforme et la mort survient à l'occasion d'un mouvement insignifiant. Oui, au bout de tout cela, on était pendu à un fil et les trois quarts des gens, c'était le chiffre exact, étaient assez impatients pour faire ce mouvement imperceptible qui les précipitait. Le docteur regardait toujours par la fenêtre. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce, la peste. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette heure, bourdonnante plutôt que bruyante, heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse être à la fois heureux et morne. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes, empestées et désertées par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille empilant dans des trous les corps dégoulinants, la construction en Provence du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la peste, Jaffa et ses hideux mendiants, les lits humides et pourris, collés à la terre battue de l'hôpital de Constantinople, les malades tirés avec des crochets, le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes de mort dans Londres, épouvantées, et les nuits et les jours remplis partout et toujours du cri interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette journée. De l'autre côté de la vitre, le timbre d'un tramway invisible résonnait tout d'un coup et réfutait en une seconde la cruauté et la douleur. Seule la mer, au bout du damier terne des maisons, témoignait de ce qu'il y a d'inquiétant et de jamais reposé dans le monde. Et le docteur Rieux, qui regardait le golfe, pensait à ces bûchers dont parle Lucrèce, et que les Athéniens, frappés par la maladie, élevaient devant la mer. On y portait les morts durant la nuit, mais la place manquait, et les vivants se battaient à coups de torches pour y placer ceux qui leur avaient été chers, soutenant des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner leurs cadavres. On pouvait imaginer les bûchers rougeoyants devant l'eau tranquille et sombre, les combats de torches dans la nuit crépitante d'étincelles et d'épaisses vapeurs empoisonnées montant vers le ciel attentif. On pouvait craindre, mais ce vertige ne tenait pas devant la raison. Il est vrai que le mot de peste avait été prononcé. Il est vrai qu'à la minute même, le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi ? Cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Ensuite, la peste s'arrêterait, parce que la peste ne s'imaginait pas, ou s'imaginait faussement. Si elle s'arrêtait, et c'était le plus probable, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu'elle était, et s'il n'y avait pas moyen de s'en arranger d'abord, pour la vaincre ensuite. Le docteur ouvrit la fenêtre, et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. À partir de ce moment, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient apporté ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il l'avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute cela devait continuer. Mais, une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac, et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple. Et avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut en effet la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés. Des mères et des enfants, des époux, des amants, qui avaient cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le quai de notre gare avec deux ou trois recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles, se virent d'un seul coup éloignés sans recours, empêchés de se rejoindre ou de communiquer. Car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêté préfectoral fût publié et naturellement, il était impossible de prendre en considération les cas particuliers. On peut dire que cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d'obliger nos concitoyens à agir comme s'ils n'avaient pas de sentiments individuels. Dans les premières heures de la journée où l'arrêté entra en vigueur, la préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs qui, au téléphone ou auprès des fonctionnaires, exposaient des situations également intéressantes et, en même temps, également impossibles à examiner. À la vérité, il fallut plusieurs jours pour que nous nous rendissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis et que les mots « transiger », « faveur », « exception » n'avaient plus de sens. Même la légère satisfaction d'écrire nous fut refusée. D'une part, en effet, la ville n'était plus reliée au reste du pays par les moyens de communication habituels et d'autre part, un nouvel arrêté interdit l'échange de toute correspondance pour éviter que les lettres puissent devenir les véhicules de l'infection. Au début, quelques privilégiés purent s'aboucher aux portes de la ville avec des sentinelles des postes de garde qui consentirent à faire passer des messages à l'extérieur. Encore était-ce dans les premiers jours de l'épidémie, à un moment où les gardes trouvaient naturel de céder à des mouvements de compassion. Mais au bout de quelque temps, lorsque les mêmes gardes furent bien persuadés de la gravité de la situation. Ils se refusèrent à prendre des responsabilités dont ils ne pouvaient prévoir l'étendue. Les communications téléphoniques interurbaines, autorisées au début, provoquèrent de tels encombrements aux cabines publiques et sur les lignes qu'elles furent totalement suspendues pendant quelques jours, puis sévèrement limitées à ce qu'on appelait les cas urgents, comme la mort, la naissance et le mariage. Les télégrammes restèrent alors notre seule ressource. Des êtres que liaient l'intelligence, le cœur et la chair en furent réduits à chercher les signes de cette communion ancienne dans les majuscules d'une dépêche de 10 mots. Et comme en fait les formules qu'on peut utiliser dans un télégramme sont vite épuisées, de longues vies communes ou des passions douloureuses se résumèrent rapidement dans un échange périodique de formules toutes faites comme « Vais bien, pense à toi, tendresse ». Ainsi, la première chose que la peste apporta à nos concitoyens fut l'exil. Et le narrateur est persuadé qu'il peut écrire ici, au nom de tous, ce que lui-même a éprouvé alors, puisqu'il l'a éprouvé en même temps que beaucoup de nos concitoyens. Oui, c'était bien le sentiment de l'exil que ce creux que nous portions constamment en nous, cette émotion précise, le désir déraisonnable de revenir en arrière ou, au contraire, de presser la marche du temps, ces flèches brûlantes de la mémoire. Si, quelquefois, nous nous laissions aller à l'imagination et nous plaisions à attendre le coup de sonnette du retour ou un pas familier dans l'escalier, si, à ces moments-là, nous consentions à oublier que les trains étaient immobilisés, si nous nous arrangions alors pour rester chez nous à l'heure où, normalement, un voyageur amené par l'express du soir pouvait être rendu dans notre quartier, bien entendu, ces jeux ne pouvaient durer. Il venait toujours un moment où nous nous apercevions clairement que les trains n'arrivaient pas. Nous savions alors que notre séparation était destinée à durer et que nous devions essayer de nous arranger avec le temps. Dès lors, nous réintégrions, en somme, notre condition de prisonnier. Nous étions réduits à notre passé, et si même quelques-uns d'entre nous avaient la tentation de vivre dans l'avenir, ils y renonçaient rapidement, autant du moins qu'il leur était possible, en éprouvant les blessures que finalement l'imagination inflige à ceux qui lui font confiance. Ainsi, à longueur de semaine, les prisonniers de la peste se débattirent comme ils le purent. Et quelques-uns d'entre eux, comme Rambert, arrivaient même à imaginer, on le voit, qu'ils agissaient encore en hommes libres, qu'ils pouvaient encore choisir. Mais en fait, on pouvait dire à ce moment, au milieu du mois d'août, que la peste avait tout recouvert. Il n'y avait plus alors de destin individuel, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous. Le plus grand était la séparation, l'exil, avec ce que cela comportait de peur et de révolte. Voilà pourquoi le narrateur croit qu'il convient, à ce sommet de la chaleur et de la maladie, de décrire la situation générale et, à titre d'exemple, les violences de nos concitoyens vivants, les enterrements des défunts et la souffrance des amants séparés. C'est au milieu de cette année-là que le vent se leva et souffla pendant plusieurs jours sur la cité empestée. Le vent est particulièrement redouté des habitants d'Oran, parce qu'il ne rencontre aucun obstacle naturel sur le plateau où elle est construite et qu'il s'engouffre ainsi dans les rues avec toute sa violence. Après ces longs mois où pas une goutte d'eau n'avait rafraîchi la ville, elle s'était couverte d'un enduit gris qui s'écailla sous le souffle du vent. Ce dernier soulevait ainsi des vagues de poussière et de papier qui battaient les jambes des promeneurs devenus plus rares. On les voyait se hâter par les rues, courbés en avant, un mouchoir ou la main sur la bouche. Le soir, au lieu des rassemblements, où l'on tentait de prolonger le plus possible ces jours dont chacun pouvait être le dernier, on rencontrait de petits groupes de gens pressés de rentrer chez eux ou dans des cafés, si bien que pendant quelques jours, au crépuscule, qui arrivait bien plus vite à cette époque, les rues étaient désertes et le vent seul y poussait des plaintes continues. De la mer soulevée et toujours invisible, montait une odeur d'algues et de sel. Cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée d'odeurs marines, toute sonore des cris du vent, gémissait alors comme une île malheureuse. Jusqu'ici, la peste avait fait beaucoup plus de victimes dans les quartiers extérieurs, plus peuplés et moins confortables que dans le centre de la ville. Mais elle sembla tout d'un coup se rapprocher et s'installer aussi dans les quartiers d'affaires. Les habitants accusaient le vent de transporter les germes d'infection. « Il brouille les cartes », disait le directeur de l'hôtel. Mais quoi qu'il en fût, les quartiers du centre savaient que leur tour était venu. En entendant vibrer tout près d'eux, dans la nuit, et de plus en plus fréquemment, le timbre des ambulances, qui faisait résonner sous leurs fenêtres l'appel morne et sans passion de la peste. À l'intérieur même de la ville, on eut l'idée d'isoler certains quartiers particulièrement éprouvés et de n'autoriser à en sortir que les hommes dont les services étaient indispensables. Ceux qui y vivaient jusque-là ne purent s'empêcher de considérer cette mesure comme une brimade spécialement dirigée contre eux. Et dans tous les cas, ils pensaient, par contraste, aux habitants des autres quartiers comme à des hommes libres. Ces derniers, en revanche, dans leurs moments difficiles, trouvaient une consolation à imaginer que d'autres étaient encore moins libres qu'eux. « Il y a toujours plus prisonniers que moi », était la phrase qui résumait alors le seul espoir possible. La seule mesure qui sembla impressionner tous les habitants fut l'institution du couvre-feu. À partir de 11 heures, plongée dans la nuit complète, la ville était de pierre. Sous les ciels de lune, elle alignait ses murs blanchâtres et ses rues rectilignes, jamais tachées par la masse noire d'un arbre, jamais troublées par le pas d'un promeneur ni le cri d'un chien. La grande cité silencieuse n'était plus alors qu'un assemblage de cubes massifs et inertes, entre lesquels les effigies taciturnes de bienfaiteurs oubliés ou d'anciens grands hommes étouffés à jamais dans le bronze s'essayaient, seuls, avec leurs faux visages de pierre ou de fer, à évoquer une image dégradée de ce qui avait été l'homme. Ces idoles médiocres trônaient sous un ciel épais, dans les carrefours sans vie, brutes, insensibles, qui figuraient assez bien le règne immobile où nous étions entrés, ou du moins son ordre ultime, celui d'une nécropole où la peste, la pierre et la nuit auraient fait taire enfin toute voix. Les portes de la ville s'ouvrirent enfin à l'aube d'une belle matinée de février, saluée par le peuple, les journaux, la radio et les communiqués de la préfecture. Il reste donc au narrateur à se faire le chroniqueur des heures de joie qui suivirent cette ouverture des portes, bien que lui-même fût de ceux qui n'avaient pas la liberté de s'y mêler tout entier. De grandes réjouissances étaient organisées pour la journée et pour la nuit. En même temps, les trains commencèrent à fumer en gare pendant que, venus de mers lointaines, des navires mettaient déjà le cap sur notre port, marquant à leur manière que ce jour était, pour tous ceux qui gémissaient d'être séparés, celui de la grande réunion. On imaginera facilement ici ce que put devenir le sentiment de la séparation qui avait habité tant de nos concitoyens. Les trains qui, pendant la journée, entrèrent dans notre ville n'étaient pas moins chargés que ceux qui en sortirent. Chacun avait retenu sa place pour ce jour-là, au cours des 2 semaines de sursis, tremblant qu'au dernier moment, la décision préfectorale fût annulée. Certains des voyageurs qui approchaient de la ville n'étaient d'ailleurs pas tout à fait débarrassés de leur appréhension, car s'ils connaissaient en général le sort de ceux qui les touchaient de près, ils ignoraient tout des autres et de la ville elle-même, à laquelle ils prêtaient un visage redoutable. Mais ceci n'était vrai que pour ceux que la passion n'avait pas brûlé pendant tout cet espace de temps. Les passionnés, en effet, étaient livrés à leur idée fixe. Une seule chose avait changé pour eux. Ce temps, que pendant les mois de leurs exils, ils avaient voulu pousser pour qu'il se pressât, qu'il s'acharnait à précipiter encore, alors qu'ils se trouvaient déjà en vue de notre ville, ils souhaitèrent le ralentir, au contraire, et le tenir suspendu, dès que le train commença de freiner avant l'arrêt. Le sentiment, à la fois vague et aigu en eux, de tous ces mois de vie perdus pour leur amour, leur faisait confusément exiger une sorte de compensation par laquelle le temps de la joie aurait coulé 2 fois moins vite que celui de l'attente. Et ceux qui les attendaient dans une chambre ou sur le quai, comme Rambert, dont la femme, prévenue depuis des semaines, avait fait ce qu'il fallait pour arriver, était dans la même impatience et le même désarroi. Car cet amour ou cette tendresse, que les mois de peste avaient réduit à l'abstraction, Rambert attendait, dans un tremblement, de les confronter avec l'être de chair qui en avait été le support. Il aurait souhaité redevenir celui qui, au début de l'épidémie, voulait courir d'un seul élan hors de la ville et s'élancer à la rencontre de celle qu'il aimait. Mais il savait que cela n'était plus possible. Il avait changé. La peste avait mis en lui une distraction que, de toutes ses forces, il essayait de nier et qui, cependant, continuait en lui, comme une sourde angoisse. Dans ce sens, il avait le sentiment que la peste avait fini trop brutalement. Il n'avait pas sa présence d'esprit. Le bonheur arrivait à toute allure, l'événement allait plus vite que l'attente. Rambert comprenait que tout lui serait rendu d'un coup et que la joie est une brûlure qui ne se savoure pas. Tous, du reste, plus ou moins consciemment, étaient comme lui. Et c'est de tous qu'il faut parler. Sur ce quai de gare où ils recommençaient leur vie personnelle, ils sentaient encore leur communauté en échangeant entre eux des coups d'œil et des sourires. Mais leur sentiment d'exil, dès qu'ils virent la fumée du train, s'éteignit brusquement sous l'averse d'une joie confuse et étourdissante. Quand le train s'arrêta, des séparations interminables, qui avaient souvent commencé sur ce même quai de gare, y prirent fin en une seconde, au moment où des bras se refermèrent avec une avarice exultante sur des corps dont ils avaient oublié la forme vivante. Rambert, lui, n'eut pas le temps de regarder cette forme courant vers lui que déjà elle s'abattait contre sa poitrine. Et la tenant à plein bras, serrant contre lui une tête dont il ne voyait que les cheveux familiers, il laissa couler ses larmes sans savoir si elles venaient de son bonheur présent ou d'une douleur trop longtemps réprimée, assuré du moins qu'elle l'empêcherait de vérifier si ce visage enfoui au creux de son épaule était celui dont il avait tant rêvé ou, au contraire, celui d'une étrangère. Il saurait plus tard si son soupçon était vrai. Pour le moment, il voulait faire comme tous ceux qui avaient l'air de croire autour de lui que la peste peut venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé. Serrés les uns contre les autres, tous rentrèrent alors chez eux, aveugles au reste du monde, triomphants en apparence de la peste, oublieux de toute misère et de ceux qui, venus aussi par le même train, n'avaient trouvé personne et se disposaient à recevoir chez eux la confirmation des craintes qu'un long silence avait déjà fait naître dans leur cœur. Pour ces derniers, qui n'avaient maintenant pour compagnie que leur douleur, toute fraîche, pour d'autres qui se vouaient à ce moment au souvenir d'un être disparu, il en allait tout autrement. Et le sentiment de la séparation avait atteint son sommet. Pour ceux-là, mère, époux, amant, qui avaient perdu toute joie avec l'être maintenant égaré dans une fosse anonyme ou fondu dans un tas de cendres, c'était toujours la peste. Mais qui pensait à ces solitudes ? À midi, le soleil, triomphant des souffles froids qui luttaient dans l'air depuis le matin, déversait sur la ville les flots ininterrompus d'une lumière immobile. Le jour était en arrêt. Les canons des forts au sommet des collines tonnèrent sans interruption dans le ciel fixe. Toute la ville se jeta dehors pour fêter cette minute oppressée où le temps des souffrances prenait fin et où le temps de l'oubli n'avait pas encore commencé. On dansait sur toutes les places. Du jour au lendemain, la circulation avait considérablement augmenté et les automobiles, devenues plus nombreuses, circulaient difficilement dans les rues envahies. Les cloches de la ville sonnèrent à la volée pendant tout l'après-midi. Elles remplissaient de leurs vibrations un ciel bleu et doré. Dans les églises, en effet, des actions de grâce étaient récitées. Mais en même temps, les lieux de réjouissance étaient pleins à craquer et les cafés, sans se soucier de l'avenir, distribuaient leurs derniers alcools. Devant leur comptoir se pressait une foule de gens pareillement excités et parmi eux de nombreux couples enlacés qui ne craignaient pas de se donner en spectacle. Tous criaient ou riaient. La provision de vie qu'ils avaient faite pendant ces mois où chacun avait mis son âme en veilleuse, ils la dépensaient ce jour-là qui était comme le jour de leur survie. Le lendemain commencerait la vie elle-même avec ses précautions. Pour le moment, des gens d'origine très différente se coudoyaient et fraternisaient. L'égalité que la présence de la mort n'avait pas réalisée en fait, la joie de la délivrance l'établissait, au moins pour quelques heures. Rieux se dirigea vers l'escalier. « Dites, docteur, c'est vrai qu'ils vont construire un monument aux morts de la peste ?» Le journal le dit, une stèle ou une plaque. J'en étais sûr. Et il y aura des discours. Le vieux riait d'un rire étranglé. Je les entends d'ici. Nos morts. Et ils iront casser la croûte. Rieux montait déjà l'escalier. Le grand ciel froid scintillait au-dessus des maisons et près des collines. Les étoiles durcissaient comme des silex. Cette nuit n'était pas si différente de celle où Tarou et lui étaient venus sur cette terrasse pour oublier la peste. La mer était seulement plus bruyante qu'alors au pied des falaises. L'air était immobile et léger,
délestée des souffles salés qu'apportait le vent tiède de l'automne. La rumeur de la ville, cependant, battait toujours le pied des terrasses avec un bruit de vagues, mais cette nuit était celle de la délivrance et non celle de la révolte. Au loin, un noir rougeoiement indiquait l'emplacement des boulevards et des places illuminées. Dans la nuit maintenant libérée, le désir devenait sans entrave et c'était son grondement qui parvenait jusqu'à Rieux. Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cotard, Tarou, ceux et celles que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison. Les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c'était leur force et leur innocence. Et c'est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a, dans les hommes, plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir, et que sans doute devrait accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leur déchirement personnel, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.
Vous avez entendu des extraits, juste des extraits, parce que c'est un livre qui fait près de 300 pages, du livre La Peste de Albert Camus, lu par Sharif Andoura. Bravo, merci. En direct, vous pouvez l'applaudir, en direct sur France Culture, en public au Théâtre de la Ville, c'était une réalisation de Christophe Hoquet, conseillère littéraire Caroline Oisana, équipe de réalisation Bruno Mourlan, Mathieu Leroux, Sophie Pierre. Un grand merci à toutes les équipes du Théâtre de la Ville. Le festival Camus se poursuit sur France Culture avec la dictée géante à 15h30, une dictée que vous pouvez suivre d'ailleurs au Théâtre de la Ville dans les jardins si vous le voulez, faire la dictée à 16h au Théâtre de la Ville, mais uniquement pour les spectateurs, une lecture sous forme d'oratorio par la troupe des comédiens du Théâtre de la Ville de la pièce État de siège. Je vous souhaite une très belle après-midi en compagnie de France Culture et d'Albert Camus, et vous pouvez encore applaudir Charles Fondera pour terminer.
France Culture, l'esprit d'ouverture.